France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Avec le crépuscule des hommes, il nous plonge dans le procès du siècle dernier, Nuremberg. Le grand reporter Alfred de Montesquieu sera mon invité à partir de 13h. Mais en ce dernier jour d'école, nous avons pensé à vous, parents, grands-parents, oncles, tantes, tuteurs, animateurs et qui sait, enfants qui nous écoutez. Trois objets culturels jeunesse sont au menu de la critique qui vient. Vous écoutez les Midis de Culture et je m'en félicite. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Mathilde Wagman, chroniqueuse et programmatrice du Book Club. Bonjour.
Bonjour Marie.
Victor Massé de l'Épinay, rédacteur en chef adjoint du Pèlerin. Bonjour.
Bonjour.
Il était une fois, bien avant la naissance de la grand-mère de ta grand-mère, un pauvre fabricant de balais qui vivait à l'orée d'une grande et sombre forêt, avec sa femme et ses deux enfants, Hansel et Gretel. Ce balaitier était un homme sympathique. Son épouse, la belle-mère des enfants, était une mégère qui aimait avoir le dernier mot et qui l'obtenait la plupart du temps. Cette petite famille menait une existence plutôt agréable jusqu'au jour où la sécheresse s'abattit sur le pays, provoquant une immense famine. Tout d'abord, il y eut moins à manger, puis encore moins, et puis presque rien. Un soir où le fabricant de balais et sa femme étaient couchés dans leur lit, il demanda « Que va-t-on devenir ? Comment va-t-on nourrir les enfants alors que nous n'avons presque plus rien pour nous ?» Sa méchante femme avait attendu qu'il prononce ses paroles pour ne pas avoir à le faire. « Je sais, » dit-elle, « dès demain, nous conduirons ces pénibles enfants au fond des bois. Nous allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un morceau de pain. Après quoi, nous les laisserons là, seuls, et nous retournerons travailler. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison. » Et nous en serons débarrassés.
C'est dans les vieux pots, etc., etc. Pourquoi ne pas replonger avec délectation dans un des contes les plus horribles des frères Grimm, Hansel et Gretel? Si je vous dis qu'elle a été réécrite ici par Stephen King, le maître de l'horreur, ne fuyez pas, faites-moi quand même confiance. Il a mis de l'eau dans son sang pour adapter ses talents à des petits à partir de 6 ans. Et les dessins sont ceux de Maurice Sendak, mondialement connu entre autres pour Max et les Maxi-Monstres. Bref, deux géants au service des peurs enfantines. Est-ce que ça fait un livre exceptionnel, Victor Massé de l'Épinay?
Eh bien, c'est bien la question. Pour tout dire, moi, quand je vois cette couverture avec marqué en gros Stephen King, Maurice Sendak, Hansel et Gretel, je suis un tout petit peu méfiant parce que ce côté name-dropping dans tout ce qui est ce qui s'approche de la jeunesse, de la littérature jeunesse, du cinéma, me fatigue un peu. Ça me fait penser au nom des acteurs hollywoodiens qu'on voit sur les affiches de films, de dessins animés. Autrefois, on ne savait pas qui doublait les dessins animés, on s'en portait absolument pas plus mal. Aujourd'hui, on le voit, Will Smith, Uma Thurman, quand c'est aux États-Unis, et puis je sais pas qui en France. Quand on était petit, c'était Roger Carrel, il faisait ça très bien, c'était son métier. Et ça me plaisait. Une fois qu'on a dit ça, donc moi je vois Stephen King, Maurice Sendak, je me dis bon d'accord, est-ce que le livre est bien ? Il y a un argument de vente évident, c'est deux géants, donc voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Il faut dire d'abord que ce livre est un livre un peu composite, puisque les dessins de Maurice Sendak, qui est mort depuis longtemps, sont des dessins qu'il a fait pour une adaptation à l'opéra de Hansel et Gretel, un opéra de Humperdinck, que je ne connaissais pas, je le confesse. Donc, il y avait un matériel graphique qui était là. Et à partir de là, Stephen King revisite le conte des frères Grimm. Je dis revisite parce qu'on nous dit un peu pompeusement qu'il le revisite. Je trouve qu'on se paye un peu de mots. Il le raconte, quoi. On raconte le conte des frères Grimm. Pourquoi est-ce qu'on doit le revisiter? C'est pas tellement revisité. On a entendu le début, c'est la belle-mère, alors que dans le conte des frères Grimm, c'est leur mère. Le papa est marchand de balais, ou fabricant de balais. Si, j'ai regardé le conte.
Ah, bah, moi aussi, j'ai regardé le conte des frères Grimm.
Vous n'avez pas la même version.
Mais bon, il y a plein de versions.
C'est bien la question. C'est que les frères Grimm, ils sont toujours revisités parce qu'on a rarement le texte original. Et moi, j'ai regardé dans plusieurs livres que j'avais où il y a marqué juste les frères Grimm. On ne sait pas qui est celui qui revisite ou qui raconte. Et j'ai vu plusieurs fois la mère et pas la belle-mère. Alors, je ne suis pas allé voir dans une édition de référence qui n'était pas un livre pour enfants. Mais c'est bien là toute la question. Alors, ça fait un livre composite, un livre très, très joli. Et c'est l'histoire d'Hansel et Gretel. qui n'est pas tant que ça revisitée, qui est intéressante. Les dessins, on va en parler, sont à la fois jolis et à la fin et très, enfin même très beaux. Et à la fois, c'est pas un livre complètement abouti, puisque c'est un assemblage en fait de dessins, d'études. Donc, par exemple, les personnages, c'est des recherches graphiques de Maurice Sendak. Donc, on a des dessins. On suppose que c'est la mère. Et puis la page d'après, il y a un autre dessin d'une femme. On se dit, bah c'est encore la mère, puisqu'il n'y a pas d'autre femme dans le. Mais elle ressemble pas à la première. Alors pour les enfants, ça nécessite peut-être d'expliquer un peu. Les enfants ont pas toujours la même tête. Le registre même graphique, le trait n'est pas toujours le même. Il y a des dessins plus réalistes, d'autres plus grossiers, d'autres plus caricaturaux. Ça fait un livre très très beau, très intéressant, mais cette espèce de d'affichage qui écrase un peu tout avec ses grands noms. Moi, je trouve que le livre que j'avais d'Ansel et Gretel de quand j'étais petit, illustré par Suzanne Jeffers, qui est pas très connu, mais c'est des dessins absolument merveilleux et qui me sont restés en tête depuis très longtemps. Et peut-être que cette version-là restera en tête dans la tête
d'enfants d'aujourd'hui.
Voilà.
Mathilde Wagman.
Alors moi, je suis d'accord avec un certain nombre de choses qu'a souligné très justement Victor Massé de Lépinay. En revanche, ça n'a pas du tout provoqué chez moi la même émotion. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris qu'arrivait une version de Hansel et Gretel par Stephen King et Maurice Sendak, c'est-à-dire quand même deux génies chacun en leur domaine, j'étais absolument enthousiasmée et très excitée de découvrir ça. Et Maurice Sendak étant quand même l'un des plus grands auteurs pour la littérature jeunesse du XXe siècle. Il est mort en 2012. Bon, voilà. Et j'ai pas du tout été pour ma part déçue, mais c'est intéressant parce que c'est finalement un peu pour les raisons qu'a souligné Victor. C'est-à-dire que, en effet, les illustrations de Maurice Sendak, Stephen King a travaillé à partir d'un matériau donc composé de ses esquisses de décor pour une adaptation de l'opéra de Humperdinck que je ne connaissais pas non plus. Le fait que ce soit des décors, je trouve ça très intéressant graphiquement dans le livre parce qu'on le sent, c'est pas du tout gommé, ces illustrations, elles sont pas du tout présentées comme prenant toute la place. Elles occupent dans le livre une place de décor, justement. Très souvent, la forêt, notamment les très belles forêts dessinées par Sendak, entourent le texte comme un deuxième plan que j'ai trouvé très, très beau. Parce que ça va aussi dans le sens de l'adaptation de King, qui en effet est assez fidèle aux différentes versions ou à la version que proposent les frères Grimm. De toute façon, le conte, c'est toujours une adaptation. Tout ça est une transcription de récits oraux. Et en effet, le texte de King est proche de la version des frères Grimm. Moi, j'entends là-dedans une modestie et une forme d'humilité face à la puissance absolument extraordinaire de ce conte que le livre, que l'album nous permet de réentendre. Et quelle puissance! Enfin, il faut quand même rappeler à quel point ce conte est prodigieux. Alors, si on le connaît déjà, bien sûr, on ne va faire que retrouver cette puissance, mais tout de même, quelle puissance! Moi, j'ai pas pu m'empêcher, en le lisant, en le redécouvrant, de penser à cette merveilleuse variation sur le petit pousset qu'avait proposé Jean-Claude Grimbert, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. Le petit pousset et Hansel et Gretel commençant de la même manière. Et qu'est-ce qui se passe au début du Petit Pousset? Je vous lis juste les trois premières lignes de ce conte, qui est donc un conte contemporain, qui propose une variation pour parler de la Shoah, mais sans jamais mentionner la Shoah. Voilà, La plus précieuse des marchandises, un conte, de Jean-Claude Grimbert, ça commence comme ça. Il était une fois dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le Petit Pousset, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons. Voilà. Hansel et Gretel, comme le petit pousset, ça décrit et ça part d'un monde où des parents abandonnent leurs enfants faute de pouvoir les nourrir. Cette chose-là ressort dans le texte que nous en propose King de manière absolument extraordinaire et c'est la dimension la plus terrorisante de ce conte, bien plus, je trouve, que la sorcière, hein, ses parents ou cette belle-mère et ce père qui abandonnent leurs enfants, à une heure où quand même, dans la littérature jeunesse, on a les auteurs, les autrices, je trouve, ont un petit peu tendance à avoir peur de faire peur aux enfants, à gommer les personnages de méchants, à proposer toutes sortes de loups végétariens et de monstres gentils. Mais quelle merveille quand même d'avoir cette histoire géniale qui aborde la cruauté du monde et des hommes et des femmes en pleine face. Et par ailleurs, quand même, je trouve que la patte de Stephen King, discrète, mais elle est là aussi. Par exemple, il fait du père non plus seulement un bûcheron, mais un fabricant de balais, ce qui est une manière de le relier discrètement discrètement mais délicatement à la sorcière. C'est quelque chose de très joli. Il accentue la cruauté de cette marâtre belle-mère. Bon, ça évidemment, il y a une dimension misogyne hein, dans la figure de la belle-mère dans les contes, en faisant par exemple que quand elle tend un bout de pain à Hansel et Gretel la première fois qu'elle va les perdre dans la forêt, il nous précise que elle s'est confectionnée pour elle et pour son mari un roulé à la confiture et un sandwich à la viande, par exemple.
Pour son mari, un roulé à la confiture, et pour elle, un gros sandwich à la viande.
Oui, exactement. Voilà, ce qui est encore plus terrible. Voilà, il y a des petites notes comme ça qui rendent cette cruauté, cette terreur encore plus merveilleuse. Et puis pour finir, cette très belle idée graphique dont Stephen King dit en introduction qu'elle est l'une de celles qui lui a donné envie de se lancer dans cette aventure-là, qui est de la maison et de la sorcière à double face. Sendak propose donc la fameuse maison faite de gâteaux et de sucre pour les fenêtres et de pain d'épices. Elle est sur une face de cette forme-là, et puis on découvre sur l'autre face son visage terrifiant. Voilà, tout ça est quand même très 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 réjouissant.
Je vois la mine de Victor et je pense qu'on va s'arrêter là. Hansel et Gretel, Stephen King, Maurice Sendak, d'après les frères Grimm, c'est à l'école des loisirs pour les petits entre 6 et 8 ans.
Coucou ! Maman !
Oh ma chérie !
J'ai hâte de voir le château. Coucou.
Bonjour, princesse.
Lucie. Je m'appelle Lucie.
Ouais, je sais. Alors voici Pipo, Loto, Moto, Salto, Rico et Toto.
Zerbinette.
Alors si tu ponds encore un œuf dans la cabine, je ferme le tracteur à clé et c'est fini.
Alors, comment tu le trouves, notre château?
Bah, il reste plus grand-chose. T'as vu les mésanges?
Deuxième objet culturel de cette sélection jeunesse, le film d'animation « Le secret des mésanges » d'Antoine Lanciot qui sort mercredi prochain sur les écrans. On y suit les aventures de Lucie, une petite citadine de 9 ans qui vient passer des vacances à la campagne, là où sa mère mène des fouilles archéologiques. Avec Yann, le petit-fils d'agriculteur du village, elle va chercher à élucider un secret. Le film est entièrement réalisé en papier découpé selon la technique du cut-out. Il est conseillé aux enfants à partir de 6 ans. Mathilde Wagman.
Oui, moi c'est un film que j'ai trouvé très joli, dans lequel en fait j'ai aimé habiter, j'ai aimé être dans ce film sensoriellement. Par-delà même l'histoire, qui est une très jolie et délicate variation sur la thématique des silences, des générations qui nous précèdent, autour de l'histoire de nos familles et que la petite fille, l'héroïne de ce film, Lucie, va creuser. Par-delà ça, je crois que ce que j'ai le plus aimé, c'est voilà, habiter dans cette campagne où elle se trouve pour un temps avec sa mère, archéologue, qui fouille comme ça les ruines d'un château. Et voilà, autour de ce séjour à la campagne, dans ce petit village, elle va découvrir tout un passé que sa mère occulte. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est d'ouvrir mes oreilles et mes yeux au son de la campagne, avec visuellement, en effet, cette technique du papier découpé qui a une longue histoire hein, dans l'histoire du dessin animé. Voilà, on pense au célèbre film de Lotte Reininger, cette cinéaste allemande qui s'appelait Les Aventures du Prince Ahmed, et qui est utilisé d'une manière très fine, je trouve, très, très sensorielle. C'est rigolo parce que c'est une technique donc en 2D, c'est-à-dire qu'on est sur du dessin plat, qui est placé comme ça, des petites figurines, des milliers de figurines qui ont été placées sur des plaques en verre pour donner une profondeur de champ. Et pourtant, cette platitude, dans le ressenti que j'ai eu comme spectatrice, j'ai pas et arrêter de me sentir enveloppée, habitée, immergée de manière beaucoup plus forte que certains effets 4D voilà, ou cinéma en relief. Donc c'est ça qui m'a avant tout enthousiasmée dans ce film-là.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je commence avec la forme. En effet, il y a quelque chose de vraiment prodigieux dans cette technique très enfantine. Hein, c'est découper du papier et coller du papier. Et il y a une poésie formelle, visuelle, qui est absolument réjouissante dans ce film. On approche des vacances de la Toussaint, où donc il y a beaucoup de dessins animés qui sortent. Maintenant, c'est un peu à ce moment-là que sortent beaucoup de dessins animés. Et quand même, je me disais qu'entre Arco, je ne sais pas si vous en avez parlé.
On a parlé d'Arco, on a reçu Hugo, bienvenue.
Hugo, bienvenue. Entre Marcel et Monsieur Pagnol, entre La Vie de Château, entre Le Secret des Mésanges, on a dans l'animation française quand même des talents extraordinaires et qui propose des choses visuellement très différentes. C'est quand même d'abord ça une fierté nationale. Enfin, je sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais alors sur Le Secret des Mésanges, au-delà de cette enfin oui, vraiment j'insiste encore sur le côté formel. Les papiers découpés, moi, ce qui m'a le plus touché immédiatement, c'est les décors. Parce que papier découpé, il y a des décors, puis ensuite, il y a des personnages qu'on doit faire bouger. Mais il y a des grands décors, et en particulier des arbres, des végétaux, qui ont tous des textures différentes. Il y a un petit jeu de superposition de ces dessins avec des plaques de verre, mais qui donne une profondeur de champ et une... qui est vraiment, oui, englobant, quelque chose comme ça, mais... C'est vraiment un émerveillement visuel. Ensuite, sur le fond de cette histoire, bah c'est voilà, Mathilde disait qu'aujourd'hui les auteurs jeunesse ont peur de mettre de la négativité. C'est une histoire où il n'y a pas de méchants, mais parce qu'il n'y a pas de méchants parce qu'il y a déjà dans nos vies des mystères, des blessures, des difficultés de communication, du matériel qui résiste, des moteurs qui prennent feu, des courts-circuits, etc. Et que c'est déjà bien assez, et qu'il n'y a pas de méchants. Mais il y a des personnages qui sont tous bien campés, bien incarnés, tous intéressants, très réels. Il n'y a pas de caricature, il y a une vraie finesse dans la façon dont sont composés les personnages. Je trouve que la mère Caro est vraiment une mère, quelque chose de très réel, quoi.
Il y a pas... quelque chose de très moderne finalement.
Très moderne, absolument.
Dans les adultes qui s'occupent des enfants, c'est pas une famille. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, moderne, je trouve.
Ah ouais. Et aussi, avec des personnages masculins qui ne sont pas caricaturaux non plus, et qui sont, je sais pas comment dire, ni méchants, violents, ni complètement déconstruits, pour prendre un grand mot, qui sont des hommes, mais qui ça fonctionne, quoi. Et c'est assez intéressant. Et alors, j'invite tout le monde. Alors, vous avez dit 6 ans, oui, c'est sans doute à partir de 6 ans. Peut-être qu'avant c'est un peu compliqué. C'est des histoires de secrets de génération, de choses comme ça. Mais il y a sur Internet, sur le site du, mais ça se trouve facilement en tapant Le Secret des Mésanges, un making of, enfin des vidéos du making of de ce film d'animation. 7 petites vidéos de 2 minutes. Et je pense vraiment que si on va voir ce film avec des enfants, regarder après ça, c'est absolument merveilleux, parce qu'on voit des adultes très sérieux qui travaillent. C'est un vrai travail collectif, toujours un film d'animation. Et on voit des gens passionnés qui vraiment découpent et font un travail de, quelque part, enfantin. Enfin, je trouve qu'il y a dans tout ça quelque chose d'absolument rafraîchissant et joli.
Mathilde Wagman.
Oui, je pense qu'on peut souligner aussi le très beau travail sur le son, de façon générale, les ambiances, la musique. Il y a une musique qui a été composée tout spécialement pour le film. Le compositeur est Didier Falk, avec un petit orchestre acoustique. Voilà, il y a le même artisanat, je trouve, dans la manière de composer ce papier découpé, ces images, que dans le son. Et puis le travail sur les voix, quand même, ces comédiens qui incarnent, notamment, je pense, aux grands-parents qui parlent avec un accent. Presque du patois qui sonne extraordinairement juste et qui font vraiment l'incarnation des personnages. Je pense au copain archéologue de la mère qui s'appelle Pierrot, voilà, ou au vieil homme qui est incarné, ai-je découvert au générique, par François Martouret. Ça m'a ému de voir que c'était ce grand comédien, voilà, qui incarnait cette voix. Ça, c'est quand même toujours magique quand la direction d'acteur est au rendez-vous, la rencontre entre des voix et cet univers pourtant abstrait, en quelque sorte, en l'occurrence du papier découpé. Ça fonctionne très bien et ça me fait penser à un film qu'on peut voir aussi qui est en salle depuis mercredi dernier, qui est La Vie de Château, version grand écran d'un film qu'on peut voir aussi sous forme de série, de Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel H. Limi, qui a aussi cette très 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 jolie direction d'acteurs, avec des acteurs, des grands acteurs qui prêtent leur voix à ces personnages-là, et ça donne, voilà, une saveur à ces personnages, en effet, d'une grande finesse, d'une grande justesse.
On a parlé des décors, mais c'est vrai, quand on dit papier découpé, on peut avoir l'impression de quelque chose d'un peu vieillot, mais par exemple l'animation des mésanges, c'est très 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 bien fait. On oublie que c'est du papier découpé.
Oui, le papier. Oui, en même temps on l'oublie et on le voit tout le temps. Oui. Mais le papier découpé, c'est à la fois donc ces décors en superposition de grandes images plates, et puis pour ce qui est de l'animation des personnages, ce sont des petits pantins, comme on en fabriquait aussi avec des attaches parisiennes. Oui. Alors là, les attaches parisiennes, on les voit pas, mais on voit que les animaux en particulier, enfin non, les êtres animés, quoi, les animaux animaux et les humains sont des petits pantins avec des jambes. On voit les traces du découpage, mais c'est vrai que quand on m'avait dit papier découpé, je me suis dit c'est dur de motiver aujourd'hui ouais. un enfant de dire on va voir un film en papier découpé. Il va se dire mais c'est un truc qui va aller à deux à l'heure, qui va vraiment. Je crois qu'il faut pas hésiter à passer le pas.
Le secret des mésanges d'Antoine Lanciot en salle le 22 octobre prochain à partir de 6 ans, on va dire.
Ce qui compte, c'est la solution. Ce qui n'est pas la solution, c'est-à-dire le remède à l'apocalypse, est désormais accessoire. La fin du monde étant un petit peu, malheureusement, prévue pour demain. Un demain modulable, certes, un demain élastique, mais un demain quand même. Quand je passerai en terminale, on comptera en jours le temps qui nous sépare de ce demain-là. Mais pour le moment, il peut encore se passer quelques mois d'ici demain. À vrai dire, je n'en sais rien. Je ne peux pas tirer de certitude à partir de pronostics. Je ne suis pas habilité à déduire quoi que ce soit d'un sujet que je ne connais que partiellement. L'être humain n'est pas une machine.
Vous venez d'entendre la première page du roman un petit peu malheureusement, mais qui est donc Homer, le narrateur, un jeune garçon de 12 ans, très intelligent, un peu étrange. Il doit entrer en terminale, mais pour l'instant, il est dans un internat qui n'est pas très défini. Ce qu'on sait, c'est qu'il réfléchit beaucoup, Homer, surtout à la fin du monde, à l'apocalypse, qui ne va pas tarder. 12e ouvrage jeunesse de l'autrice Claire Castillon, ce roman qui paraît chez Gallimard Scripto s'adresse en priorité aux adolescents à partir de 12-13 ans. Mathilde Wagman.
C'est un drôle d'objet que ce roman. J'étais un peu décontenancée, surtout au début de ma lecture. C'est un roman que j'ai trouvé difficile à lire et difficile à aimer. Pour finir, comme son personnage donc est narrateur principal, hein, cet Homer, donc en effet, 12 ans. Tout ça malgré une ambition, un point de départ que je trouve assez intéressant, voire assez passionnant. En gros, nous mettre dans la tête d'un garçon qui est atypique par sa grande intelligence, par sa grande angoisse. Par son hypersensibilité au monde et nous faire aimer un personnage aussi qui est pour bonne partie antipathique, non parce qu'il est différent, mais parce qu'il a une forme de violence et de colère à l'égard du monde qui l'entoure, qui le rend assez compliqué à aimer tout à fait. Je trouve que malheureusement, on a beaucoup de mal à s'attacher à ce personnage et que ça rend la lecture compliquée, d'autant qu'on est vraiment, à la fois, c'est ce qui, encore une fois, rend l'ambition intéressante, mais on est entièrement à l'intérieur de sa tête. Il n'y a pas beaucoup de progression sur le plan narratif. Hein. On ne fait qu'être dans le flux impressionnant de pensée de ce personnage. Et puis, il y a un renversement final, on découvre, et on va évidemment pas dévoiler la nature de ce renversement, mais on découvre à la fin du livre que cette angoisse sur l'apocalypse à venir, dont on pensait dans un premier temps que voilà, elle relevait d'une forme d'éco-anxiété, est en fait d'une toute autre nature. Et ce renversement final, là, moi, je l'ai trouvé, pour tout dire, assez détestable, pour des raisons que je peux pas tout à fait développer sans dévoiler les choses. Mais il y a quelque chose de là, d'un tour de force, pur tour de force scénaristique, narratif, dramatique qui me semble un peu facile, avec une prise de pouvoir de l'autrice sur son personnage. Voilà. Et de façon générale, je pense que ce qui me pose problème dans le livre, c'est que j'entends beaucoup plus la voix de l'autrice que la voix du personnage, en fait. Une grande majorité de romans pour adolescents sont écrits en première personne, mettant en scène des personnages eux-mêmes adolescents qui écrivent en première personne. Parfois, c'est pour le meilleur. Et là, je trouve que, je ne cesse de voir l'écran de l'autrice derrière tout ça, malgré des choses très très jolies et très inventives sur le terrain du langage notamment, mais je laisse la parole à Victor, j'y reviendrai.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je partage un peu l'avis de Mathilde en étant peut-être un peu moins sévère, mais pour commencer par là, en effet, il y a un travail sur la langue qui est très intéressant, avec ce un petit peu malheureusement qui sert de titre à ce roman et qu'on a entendu dans l'extrait que vous avez passé, qui est une sorte de tic langagier qui revient. D'une certaine façon, la réussite de ce livre est aussi sa faiblesse, puisque avoir quelqu'un qui pense en circuit fermé avec un imaginaire qui est finalement assez étroit, comme peut l'être l'imaginaire d'un ado de 12 ans. On l'a dit, on ne sait pas s'il est hyper précoce, s'il a une forme d'autisme, mais c'est un ado un peu centré sur des problématiques qui tournent en boucle. avec des tics de langage, et on est dans sa tête, et uniquement dans sa tête, pendant au moins, enfin pendant tout le livre, mais pendant les 100 premières pages, il se passe presque rien. C'est une sorte de longue exposition. Et avec ce langage étonnant, avec ces tics, quelqu'un qui parle avec des tics verbaux, c'est pas très agréable. Alors, Claire Castillon a réussi à faire ça, à rentrer dans cette logique d'un adolescent. Peut-être qu'on l'entend un peu trop essayer de se mettre à sa place, mais en tout cas, il y a quelque chose qui marche, qui est un effet un peu de suffocation, de lassitude, de pénibilité à la lecture. On se dit, bon, mais ça n'avance pas. Et comme l'a dit Mathilde, ce garçon n'est pas extrêmement sympathique. Il est un peu violent, un peu égoïste. Bon.
Ça pourrait être très intéressant, ça, quand même, de pas prendre les adolescents pour des imbéciles.
Oui, absolument.
Leur faire saisir la nuance.
Oui. Alors, la question est quand même aussi à qui s'adresse un roman jeunesse, en général. Est-ce que c'est parce que on le commence en se disant, bon, est-ce que ça aurait plu à l'ado que j'étais? Est-ce que ça plaît aux ados que je connais, à mes ados, si on a des enfants ados? Et finalement, on se demande si c'est pas un livre très pour les adultes qui essayent
comprendre leur ado, vous voulez
dire. Essayent de comprendre leur ado, quelque chose comme ça. Alors quant au renversement aux deux tiers du livre ou aux trois quarts du livre, en effet, c'est difficile c'est une règle de pas dévoiler la fin des livres. En même temps, c'est un roman à clé qui a été construit comme ça. Ce genre de roman, quand on le termine, on le recommence en disant, bon, alors comment est-ce que je vois des indices, etc. En effet, tout est là depuis le début. Bon, c'est intelligent, c'est bien construit. Le renversement j'ai plutôt eu l'effet contraire. C'est-à-dire que la fin du livre m'a beaucoup plus plu. Je comprends ce que dit Mathilde sur la mainmise, le côté un peu forcing, mais finalement, moi, j'ai été plutôt ému par la fin du livre qui est inattendue, déconcertante. Mais ça rend aussi très difficile.
D'en
parler. Voilà, moi j'ai trouvé que les personnages, il y a quand même des belles choses, il y a quand même des belles choses dans la relation de ce garçon, en particulier avec son père. Là encore, c'est pas mon obsession, mais là il y a un personnage du père qui est très absent, très silencieux, et ce que dit, en fait, on est quand même complètement dans la tête d'un ado qui regarde ses parents, et la cruauté, en fait, nous on voit ça comme une cruauté, mais ce n'est pas toujours une cruauté. Ma mère vient me faire des câlins, ça.
Il y a un peu d'humour aussi.
Moi, j'aime pas trop ça.
Regard sur ses parents.
On voit une mère très émue qui pleure sur son enfant, puis lui, il finit en disant, moi, j'aime pas trop ça. Bon.
Un tout petit dernier mot, Mathilde.
Non, mais pour souligner, en effet, bon, moi j'ai quand même été séduite par ces trouvailles de langage, au-delà de ce très joli, un petit peu malheureusement, qui est comme ça la part enfantine de l'enfant, qui est un très beau titre, hein, vraiment. Moi j'étais très attirée par ce livre, et rien que pour ça. Il y a aussi toute cette manière qu'il a de catégoriser le monde entre les fakes et les pires, et cette formule que j'adopte immédiatement de sa grand-mère qui lui a appris le fêlèche, c'est-à-dire fais chier les autres, que j'ai trouvé vraiment très savoureux.
Un petit peu malheureusement de Claire Castillon, sorti aux éditions Gallimard Scripto à partir de 12 ans. Mathilde Wagman, Victor Massé de l'Épinay, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Merci également à Jules Barbier et à Anaïs Isebert pour les lectures. Évidemment, vous retrouvez toutes les références de ces objets culturels du jour sur la page des Midis de Culture.